Voilà. Ah bon. Voilà, et puis on va reprendre le cours de nos séances. Et puis toujours sur la manifestation, sur ce cours 3, Dieu se manifeste en sa parole. Et donc là, il s'agit plutôt de voir l'articulation. Que comprenons-nous lorsqu'on nous disons que la Bible est parole d'homme, d'abord parole de Dieu et parole d'homme. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc dès le début de nos séances de cours, on a pu voir que la manifestation de Dieu dans l'histoire des hommes était variée, on a vu ça, mais dans sa manifestation, il y avait une constante qui revenait constamment, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est la constante de sa manifestation. Il peut se manifester de manière cosmologique, par des théophanies, mais à chaque fois, on a vu que la parole était déterminante. Donc, pour aborder l'articulation entre parole de Dieu et parole d'homme, on va essayer de voir, s'agissant des Écritures saintes, bien sûr, comment nous pouvons dire qu'il s'agit en même temps de la parole de Dieu et en même temps de la parole des hommes. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que la Bible est parole de Dieu et parole des hommes? Et comment nous devons comprendre cette articulation entre parole de Dieu et parole des hommes? Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux, il faut nous déplacer du côté de la tradition. Donc ça va être un petit peu le lien entre écriture et tradition, mais plutôt du côté de la tradition. Parce que les auteurs sacrés qui ont mis par écrit, qui ont mis en récit leur expérience de Dieu qui s'est manifesté à eux ou manifesté à leur peuple, ils appartiennent à une tradition de transmission. Ce n'est pas quelque chose qui leur est venu comme ça d'un seul coup. Ils sont eux-mêmes insérés dans une tradition de transmission qui est une transmission orale. Ils transmettent de génération en génération. Donc l'écriture n'est pas en dehors de cette tradition de transmission. On écrit pour transmettre. On n'écrit pas comme aujourd'hui un roman et puis... Bon, pour être lu, bien entendu, mais vous voyez bien la différence. L'écriture s'inscrit fondamentalement dans une dimension de transmission. Et donc, cette transmission, elle prend une part importante au moment des apôtres, au moment de la mise par écrit de l'expérience qu'ils ont fait, les uns et les autres, de leur rencontre avec le Christ. Cette expérience, elle doit être traduite, elle doit être écrite. Mais vous voyez bien, quand je dis expérience, il s'agit bien plus de ce que cela. Il s'agit de transmettre que Jésus de Nazareth est bien le Fils de Dieu, qu'il a été crucifié, qu'il est mort sur la croix et que 3 jours après il est ressuscité et qu'ils en sont les premiers témoins. C'est cela la nécessité. Donc on est là dans une tradition que l'on dit être la tradition apostolique. Et généralement on met un T majuscule à tradition apostolique. Donc les apôtres, ils sont eux-mêmes les héritiers de cette tradition de transmission. Ils peuvent mettre par écrit parce qu'ils sont les garants de la transmission de l'enseignement qu'ils ont reçu eux-mêmes de Jésus-Christ. Et donc, l'urgence de la mise par écrit, elle est prégnante quelques années après la mort de Jésus, quelques années, entre 20 et 30 ans après. Donc, on en vient justement à la constitution dogmatique des Verbum, dans ce paragraphe 7, précisément sur les apôtres et leurs successeurs, qui sont les héros de l'Évangile. Que nous disent les pères conciliaires dans ce texte. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, a pris des dispositions pour qu'elle demeure toujours en son intégrité et qu'elle soit transmise à toutes les générations. C'est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. Ce qui fut fidèlement exécuté, soit par les apôtres, qui par la prédication orale, par leurs exemples et des institutions, transmirent ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, ou ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit, soit par ses apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l'inspiration du même esprit, consignèrent par écrit le message du salut. Donc vous voyez, ce petit texte, il est complet. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit d'abord quelles sont les raisons de la révélation. Les raisons de la révélation, c'est le salut. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations. Donc là, on n'est plus pour le salut d'Israël. On est sur un salut universel, le salut de toutes les nations. Après, on peut lire que Dieu a pris des dispositions. Ah, il a pris des dispositions afin qu'elles soient transmises à toutes les générations. Dieu a pris des dispositions afin qu'elles soient transmises à toutes les générations. Donc, ce sont les dispositions de Dieu même. Donc, si Dieu a pris des dispositions, c'est qu'il a donc un projet pour les hommes. Et sa manifestation est une mise en œuvre de cela. Ensuite, on nous dit que c'est en Jésus-Christ que va s'achever et que s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut. Donc, le Fils de Dieu va accomplir toute la révélation, en lui-même, en sa personne. Et donc, on peut voir qu'à ce moment-là, il y a des verbes dans le texte qui nous disent « Jésus-Christ ordonne à ses apôtres d'annoncer ». Parce qu'on voit bien comment ça se hiérarchise. Dieu, le Père, ensuite le Fils, qui vient achever et accomplir la mission, et qui lui donne, et lui-même, je veux dire, missionne ses apôtres, pour annoncer. Donc ces apôtres doivent annoncer. Ils doivent annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Transmettre ce qu'ils ont appris de la bouche de Jésus-Christ. Son enseignement et ses actions. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et maintenant les apôtres. Ben, les apôtres, ils doivent dire, ils doivent écrire, on nous dit sous la suggestion de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que les auteurs qui ont écrit les évangiles les ont écrits sous l'inspiration de l'Esprit. Et donc, ces paroles qui sont des paroles d'hommes, puisque ce sont de vrais auteurs, mais ayant écrit sous l'inspiration de l'Esprit, sont appelés des auteurs sacrés. C'est-à-dire qu'ils ont pu écrire selon la connaissance qu'ils avaient de leur culture. Ils ont écrit parce qu'ils s'adressaient à des personnes particulières, dans une culture particulière. Ils ont donc écrit avec leurs mots. Mais la teneur globale de ce qu'ils ont écrit est inspirée par l'Esprit. Donc il y a à la fois une écriture qui leur est propre et en même temps un contenu, une profondeur qui est inspirée de l'Esprit. Et donc cette inspiration de l'Esprit fait que cette écriture Elle est bien écrite par des hommes, mais elle est aussi parole de Dieu parce que parole inspirée.
Comment on explique qu'ils aient mis 20 ou 30 ans pour écrire ?
Ben parce qu'ils ont mis du temps pour écrire, parce qu'au départ, ils pensaient que le Christ allait revenir. C'était ce qui était dit, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, la parousie, le retour du Christ dans sa gloire. Et puis ce retour se faisait attendre. Et on n'oublie pas qu'on était en temps de persécution romaine et que les persécutions sous les empereurs successifs étaient plus ou moins terribles. Il y a eu des persécutions absolument terrifiantes. Et donc, les premiers témoins, mouraient les uns après les autres. Donc, l'urgence, c'était de mettre par écrit avant qu'il n'y ait plus de témoins. Donc, le premier écrit, on le doit à Pierre sur la première lettre aux Thessaloniciens en 50. Et puis ensuite, ce sont les écrits de Marc qui arrivent vers les années 60-65. Donc, vous voyez bien, on est 30 ans après la mort de Jésus. Donc, en fait, ce qui a motivé la mise à l'écrit, c'est l'urgence. L'urgence, pour ne pas oublier. Il fallait mettre par écrit. Et heureusement que ça a été mis par écrit. Donc, si on reprend cette articulation, on constate qu'il y a une action qui est trinitaire. On a parlé de disposition du Père, de médiation du Fils et d'inspiration de l'Esprit, des auteurs sacrés inspirés par l'Esprit. Et donc la transmission, elle s'est faite naturellement par oral pour être ensuite transmise par écrit. Donc dans ce texte de la Constitution dogmatique, il est affirmé que la tradition, avec un grand T, la tradition de transmission orale et également l'écriture font partie des dispositions divines. Donc l'écriture, la transmission écrite et la transmission orale font partie des dispositions divines en vue d'annoncer le Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament, puis en son Fils Jésus-Christ, par la puissance et l'action de l'Esprit. Vous voyez bien, on tient la Trinité. Donc la parole de Dieu, c'est une parole qui est prononcée. Dieu s'adresse à Abraham, s'adresse à Moïse. C'est une parole prononcée, donc c'est une parole qui est adressée à quelqu'un en particulier, puis à un groupe. Mais que la parole des hommes, ce sont des paroles qui sont, oui, qui sont annoncées, mais qui sont inspirées et qui sont écrites. Elles ne sont pas adressées particulièrement, spécifiquement. Elles sont écrites pour témoigner, transmettre le témoignage de Jésus-Christ. Donc voyons maintenant ce qu'il en est dans la Bible. C'est le premier point, grand 1, la Bible. Alors pour commencer ce point, je commence par vous lire quelques mots de Paul Beauchamp. Paul Beauchamp, il était jésuite, il est né en 1924 et il est mort en 2001. Et ce petit livre, vraiment, dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle « Parler d'écriture sainte », a fait date à son époque. Hein, vraiment, il a été écrit en 87, et en 87, on était en plein dans la réception de l'exégèse et de l'histoire de l'exégèse et de l'interprétation des textes. Et Paul Beauchamp a vraiment eu un regard particulier, c'est-à-dire il a vraiment changé la manière de lire les Écritures pour beaucoup de prêtres de cette époque. Il dit, au fond, dit-il, la question n'est pas tant de découvrir la Bible que d'y entrer. Elle a un dehors et un dedans. Être dehors ou dedans, cela dépend surtout d'une conversion intérieure, d'une entente sur la définition du livre. Voilà. Il faut quand même définir ce qu'est la Bible. Et définir ce qu'est la Bible ne consiste pas à définir un objet, d'abord. Et pourtant, on ne définit pas la Bible comme un objet, et pourtant, bah pourtant la Bible c'est un objet. C'est un livre. Seulement, ce n'est pas un livre comme un autre. Ça ne nous viendrait pas de nous servir de notre Bible pour caler le pied d'une table ou d'un meuble. Vous voyez ? C'est-à-dire que le rapport que nous avons au livre Bible est un rapport particulier. On le considère bien comme un objet, et c'est même bien de le considérer comme un objet, parce qu'on ne doit pas vénérer le livre, mais vénérer la parole qui est dans ce livre-là. Ça fait toute la différence. C'est un objet, et en même temps ce n'est pas un objet comme tous les autres. Et le père Louis-Marie Chauvet, qui est un grand théologien en sacramentaire, dit, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ou déjà dit à vous, mais je ne pense pas, il dit, c'est un livre qui est toujours en attente d'être ouvert. Vous pouvez avoir votre lit, la Bible, sur un étagère de votre bibliothèque, il n'aura pas le même statut que les romans à côté. C'est-à-dire que la Bible est toujours en attente. On la prend, on ouvre la Bible et on lit. Et on peut lire, peu importe, on peut on va lire le Lévitique, bon, c'est pas très passionnant, mais en même temps on y apprend des choses. On peut lire le livre des Nombres, on peut lire le livre d'Esther maintenant. Donc vous voyez, voilà, c'est toujours un livre qui est en attente d'être lu. Parce que c'est un livre qui révèle une action de Dieu. Et que chaque livre de la Bible, chaque évangile, est une écriture qui est en elle-même révélation. Ou pas. C'est pour ça que Paul Beauchamp nous dit cette phrase-là, on peut être en dedans ou en dehors, mais en tout cas, en dedans ou en dehors, cela dépend d'une conversion intérieure. Quelle est notre attitude intérieure lorsqu'on décide, passant devant la Bible sur une étagère, finalement de la sortir, de la prendre et de l'ouvrir. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on a envie de lire un passage de la Bible? Donc, ce n'est pas un livre comme les autres. Un roman, on l'a lu, on le classe, on peut passer devant, on peut dire, oh ben tiens, ce livre, je l'ai bien aimé. Mais il est rare quand même que, à part pour les classiques, qu'on a envie de relire parfois. Mais bon, un roman, généralement, on connaît la fin. Vous allez dire, là aussi, on connaît la fin. Sauf que là, ce n'est pas un livre qui va nous convertir, qui va... Elle a ça de particulier, l'écriture sainte, c'est que on connaît les textes quand même, si on est pratiquant, pour les entendre et les lire à la messe ou dans l'oraison, mais il y a des textes que l'on connaît, que l'on lit et que l'on a lu à des moments de notre vie qui nous ont laissé un peu sec, un peu froid, et qu'on lira 10 ans après et qui seront pour nous comme on aura découvert quelque chose, qui seront pour nous comme une révélation. Ça montre que l'écriture, elle est vivante, c'est pas une écriture sèche et asséchée. C'est-à-dire que l'écriture, elle va pouvoir être active pour nous à des moments différents de notre vie. Ou pas, hein, je n'affirme rien, ou pas. Mais elle a cette capacité-là, en tout cas. Donc ce n'est pas un objet comme un autre, c'est un objet de foi, dont l'origine est la parole de Dieu. Parce que Dieu, dans ce livre-là, il va témoigner par les hommes de la manière dont il s'est approché d'eux. Il va témoigner par la main des hommes de la manière dont Dieu s'est approché d'eux et comment il s'est adressé à eux. Et cet objet de foi que l'on appelle la Bible va dire comment la parole de Dieu, elle est aussi une parole d'action. Parole, entre parole et action, il n'y a pas de différence. La parole de Dieu est déjà une action en soi. Et c'est une action en vue du salut. Donc à propos de la Bible, on abordera trois points. Donc la Bible est parole de Dieu et elle est parole de l'homme, vous l'avez compris, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Vous le savez, elle est constituée de multiples livres, mais qui sont rassemblés dans un seul et même livre. Donc une Bible, c'est une bibliothèque. Que la Bible, c'est le livre d'un peuple, quand même, on n'oublie pas, le livre d'un peuple, le livre de son histoire, mais c'est aussi le livre de Jésus-Christ, de son événement dans l'histoire des hommes. Et que la Bible, pour l'Église, c'est le fondement même, c'est-à-dire c'est l'Église du Christ et garante du dépôt de la foi et garante de la vérité des Écritures. Et bien entendu de la transmission des Écritures. L'Église, c'est le lieu même où on entend la parole de Dieu. Donc, Écriture et bien entendu sacrement, qui font appel très largement au passage de l'Écriture. Donc ces trois points, Bible comme parole de Dieu dans l'Ancien Nouveau Testament, le fait que ce soit une bibliothèque et que ce soit le livre d'un peuple et d'une histoire et le livre de Jésus-Christ et de son événement, nous montrent que la Bible finalement c'est un livre complexe, très multiple. Il révèle une vérité et en même temps ce n'est pas un reportage, on en avait parlé la dernière fois, voilà. C'est un livre qui est aussi en lui-même la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on serait un peu réticent à caler un meuble avec. Et puis c'est un livre énigmatique. Il y a des passages que l'on ne comprend pas. Il y a une mise en intrigue parfois. Le récit est mis en intrigue, non pas qu'il y ait quelque chose d'intrigant ou de mystérieux, mais que l'auteur inspiré a écrit de telle façon que cette vérité n'est pas accessible dans l'immédiat, que la parole, que l'écriture que nous lisons, elle doit être méditée, pensée, interprétée. Certains diront la manducation de la parole. Donc il y a des paroles qui sont symboliques et qui sont voilées. Puis on avait parlé de cette articulation entre voilement et dévoilement. Et puis, la Bible comporte deux moments de l'histoire de la révélation, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais en dire ancien, on en a déjà parlé, ça ne veut pas dire que l'Ancien est caduque. Je crois que c'est Paul Bouchon qui parlera du Premier Testament. Donc, de fait, on ne sépare pas les deux livres. Et ce serait une grave erreur, même pour la confession de foi, d'amputer l'Ancien Testament, puisque lisant le Nouveau Testament, on a de grandes références à l'Ancien. Et ceux qui écrivent le Nouveau Testament, ces textes sont écrits en référence à l'Ancien Testament, la plupart du temps, parce que les auteurs sacrés sont pétris de cet Ancien Testament qui est leur culture, en fait. Voyons ce que nous dit la Constitution dogmatique à nouveau, mais là, plutôt le paragraphe 11, sur l'inspiration et la vérité de la Sainte Écriture. Les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Notre Sainte Mère, l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, ils misent par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Alors dans ce texte-là, vous voyez, il n'est pas long, et en même temps, il y a beaucoup de choses. D'abord, qu'il faut tenir ce livre comme contenant des réalités divinement révélées, ce sont les réalités, que ces réalités ont été consignées par écrit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, par la foi des apôtres, qui sont des hommes qui ont été choisis par Dieu. Donc à nouveau, on retrouve le thème de l'élection. Ce ne sont pas n'importe qui, tous les apôtres n'ont pas écrit, certains seulement, donc à la fois une élection. Que Dieu est bien l'auteur des paroles mises par écrit, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, encore une fois. Et donc, ces écrits représentent l'héritage. L'héritage pour l'Église. Et donc, la mission de l'Église, c'est de transmettre cet héritage de génération en génération. Elle considère les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament comme sacrés et canoniques, c'est-à-dire comme étant la règle, canon en grec c'est la règle, c'est-à-dire comme étant considéré comme la norme de la foi, en rapport à la révélation et à la manifestation de Dieu dans l'histoire des hommes, mise par écrit pour témoigner de génération en génération. Ça va ? Je ne vais pas trop vite ? Donc notre point 2, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Regardons un petit peu. On a vu que dans l'Ancien Testament, la parole est plurielle. C'est-à-dire que Dieu, par l'intermédiaire des prophètes, s'adresse à des personnes différentes, dans des moments d'histoire différentes, et donc il va s'adresser aux hommes de manière différente. La transcription que les auteurs sacrés feront de cette expérience de Dieu qui se révèle à eux va se faire dans un genre littéraire qui sera différent des uns et des autres. Selon les auteurs sacrés, le genre littéraire qu'ils utilisent va être différent. Et même la manière de parler d'un événement ou un autre va être différent. Et le genre littéraire qui va être adopté sera aussi différent. Et ça représente une difficulté pour nous, parce que cette pluralité d'écriture oblige le lecteur qui ne lit pas l'écriture dans le vue de l'oraison et de la prière, mais en vue de l'étude, d'aller chercher les origines de cette écriture. Qui écrit ? Roselyne a dû vous... Voilà, le contexte d'écriture. Pourquoi il écrit cela ? À qui il s'adresse ? Quelle est sa culture d'origine ? Il y a à prendre en compte tout le milieu d'écriture de l'auteur en question. Et donc ça, ça représente une difficulté. Donc les premiers destinataires, en dehors d'Abraham et de Moïse, eh bien, furent les prophètes. Et on voit bien que les prophètes, ils suivent l'histoire des rois au fur et à mesure. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai mis les références de l'Atlas. Ils vous ont été envoyés, vous l'avez eu ?
Oui.
Voilà. Donc les premiers destinataires en dehors d'Abraham et de Moïse, bien sûr, ce sont les prophètes qui ont chacun à leur tour et à des époques différentes reçu la parole de Dieu. Donc lorsqu'on lit les livres des prophètes, eh bien on peut voir qu'il y a une multitude de genres littéraires, mais cette multitude de genres littéraires ne remet pas en cause le contenu de ce qui est écrit. Pas simplement le contenu, mais la vérité, ça ne remet pas en cause. On ne peut pas se dire, ben là c'est plutôt un genre littéraire qui est de l'ordre de la parabole, donc finalement, est-ce que ce ne serait pas de l'ordre légendaire ou... Non, c'est pas... S'il y a une parole, s'il y a un écrit qui fait appel à la parabole, eh bien, on doit se dire que ce n'est pas ce que dit le texte qui est essentiel, mais c'est la vérité contenue dans le texte. C'est tout à fait différent. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, le jour où on m'a dit, il y a longtemps, ben, peut-être que c'est pas Matthieu qui a écrit son évangile, ou Marc, ou Luc, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'on nous... Voilà. Mais c'est pour cela qu'on dit, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, selon saint Matthieu, selon... Voilà. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas de savoir si l'auteur qui a écrit l'évangile de Marc, bien que ce soit authentifié maintenant, enfin, soit authentifié et authentique. Ce qui est important, c'est la vérité qui est contenue dans ce que nous lisons. C'est-à-dire que l'écriture, qu'elle soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est une écriture en tant que parole de Dieu qui ne nous trompe pas. C'est dans ce sens-là où c'est une parole qui est en vérité. Elle ne nous trompe pas, elle ne nous ment pas. Mais si on fait ce travail d'exégèse, on doit aller voir, bah, creuser un peu comme des historiens. C'est important faire ce travail scientifique, en fait. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les récits qui relatent dans l'Ancien Testament, tous les écrits ne relatent pas de faits, de révélations ou de manifestations du Seigneur. Certains, par exemple, comme le Lévitique, vont simplement être l'énumération de normes, de cultes, d'usages que l'on doit faire, des ustensiles, laver les ustensiles, les bénédictions, tout ce qui a rapport au culte et qui doit organiser la vie cultuelle du groupe. Donc là, vous voyez bien, quand on lit le Lévitique, on apprend des choses sur la manière dont vivait le peuple à cette époque-là, mais on n'est pas directement sûr, on ne lit pas la révélation de Dieu à ce moment-là. En revanche, ce qu'on peut découvrir, c'est comment les hommes ont mis dans le quotidien de leur vie, comment ils ont inséré quelque chose du culte et quelque chose en rapport avec Dieu. Les interdits alimentaires, les ablutions, c'est pas... Voilà, alors bien sûr que ça avait une nécessité, mais c'était d'abord une nécessité pour Dieu. Donc ça dit quelque chose, mais pas directement du fait de la révélation du Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc tous ces récits rejoignent les récits de l'Ancien Testament, bien sûr, même s'ils ne sont pas de fait lieux de révélation. Parce qu'ils témoignent quand même de l'existence du peuple de Dieu. Et donc l'alliance, c'est le fondement même de l'existence du peuple. C'est-à-dire l'alliance, c'est la fondation, c'est sur l'alliance que le peuple peut témoigner que Dieu s'est adressé, fait connaître à eux. Il s'est fait connaître, il a conclu une alliance avec eux. Donc l'alliance va témoigner de leur relation particulière avec Dieu. Et pourtant, quand on parle d'alliance, on parle de fidélité, et on voit bien que bien des fois, le peuple va rompre cette alliance. Voilà, quand il est dans le désert, le silence du Seigneur à ce moment-là, le fait qu'ils aient faim, le fait que Moïse ne redescende pas tout de suite, quand il descend, bah, ils ont fondu l'or et ils ont construit un veau d'or. Le besoin pour le peuple de matérialiser la réalité de Dieu. Mais ça, on pourrait dire que c'est un besoin presque... Peut-être même nous-mêmes, on porte une croix ou on porte le visage du Christ, enfin, stylisé ou pas. Le fait de matérialiser Dieu d'une certaine façon. Eh bien, on pourrait dire la Bible en tant que livre-objet, eh bien, Dieu n'a pas besoin d'être matériel. Il est matérialisé par la parole. Et dans l'Église, par les sacrements, qui sont à la fois gestes et paroles. Donc vous voyez bien, notre difficulté, c'est d'être toujours entre un désir de matérialisation et en même temps ben, se défaire de cela. Mais en même temps, on a besoin de, hein, de choses, on est cartésien un peu, de choses concrètes. Donc l'infidélité du peuple, et face à cette infidélité, ben, Dieu, lui, reste, demeure fidèle. C'est-à-dire, il renoue son alliance avec son peuple bien des fois. Les tables de la loi, la manne, voilà, il nourrit le peuple, il ne l'abandonne pas. Alors on peut lire, à propos de cette infidélité, bien souvent, de manière récurrente, dans l'Ancien Testament, on va parler de peuple à la nuque raide. C'est souvent que l'on lit ça, que les prophètes parlent de ce peuple à la nuque raide, qui a du mal à aller de l'avant dans la confiance et dans l'alliance. Voilà, c'est... Voilà. C'est inhérent à la difficulté de ce peuple-là qui, une fois qu'il est allé sur la terre promise de Canaan, terre habitée, eh bien, souvenez-vous, ils ont voulu un roi comme les autres. C'est ça. Avant, c'était les juges. Relisez le livre des juges. Et à un moment donné, ils ont dit, mais non, nous, on veut être comme les autres peuples, des peuples païens, qui avaient un roi. Ils ont voulu un roi comme les autres. Le besoin de matérialiser la supériorité, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, en tout cas l'idée d'un règne, qu'il soit divin ou temporel. Voilà. Bon. Josué, notre texte 4. Il y a juste un verset. « De toutes les promesses que Yahvé avait faites à la maison d'Israël, aucune ne manqua son effet, tout se réalisa. » Donc, on voit bien la constance du Seigneur, qui jamais n'abandonne son peuple, jamais. Voilà, et toutes les promesses que Yahvé avait faites, eh bien, toutes se sont réalisées. Donc, pour les auteurs inspirés de l'Ancien Testament, eh bien, il faut témoigner de cela. Témoigner de l'action de Dieu, de l'efficacité de sa parole, de l'acte de foi qui va être efficace. Donc les témoignages, qu'ils soient oraux ou mis par écrit, eh bien, ont cette vocation de perdurer de génération en génération. Donc vous voyez qu'il y a une articulation entre l'histoire d'un peuple qui va s'insérer dans l'histoire plus largement, avec un grand H, l'histoire de l'humanité. L'histoire d'un peuple dans l'Ancien Testament et l'histoire de tous dans le Nouveau Testament. Mais vous voyez bien, quand je dis ça, je parle pour du point de vue de la foi, bien entendu. Parce que pour le non-croyant, le salut pour l'humanité, à partir du Christ, de sa mort et de sa résurrection, ou de la révélation de Dieu dans l'histoire, ça n'a pas de réalité. Et ce n'est pas mal. C'est juste comme ça. Voilà. Il faut toujours, voilà, d'où nous parlons. Donc, dire que ça a une incidence pour l'histoire de l'humanité, pour le salut de l'homme en son humanité, c'est du point de vue de la foi, bien entendu. Donc, alors, il y a quelque chose qui fait toujours un peu difficulté dans les étudiants des autres à l'ICP. C'est lorsque je leur parle du projet d'écriture, et que ce projet d'écriture, c'est le réinvestissement du projet historien de l'écriture. Et ça, c'est pas de moi, c'est de Christophe Théobald, qui est jésuite et qui est théologien. Qui est plutôt fait de la théologie pratique et théologien là au centre Sèvres, pas très loin d'ici. Il va parler de réinvestissement du projet historien de l'écriture. Et je trouve que ça mérite un peu de réflexion. Parce que ce projet historien fait que, et c'est notre point suivant, l'histoire du salut et acte de foi, eh bien, c'est de dire que l'acte de foi, lorsqu'il est témoigné, de manière écrite. Pour les générations à venir, c'est dire que l'événement de la manifestation du Seigneur, quand elle est mise par écrit, elle va entrer dans un projet. Lorsque l'on met par écrit, c'est que l'on a un projet. Lorsqu'un auteur d'un roman écrit, son projet, c'est d'être lu. Eh bien, c'est là où la réflexion Christophe Théobald est intéressante, c'est qu'il dit, le projet de Dieu de se manifester pour que les hommes puissent témoigner qu'il s'est révélé, le projet de Dieu de sa manifestation, mis par écrit par les hommes, donc le projet de Dieu va rejoindre le projet des hommes qui décident de mettre par écrit. Vous voyez où c'est...
C'est très obscur.
Dieu a un projet pour l'homme. Son projet, c'est de les se faire connaître et de les sauver. Les hommes qui reçoivent cette révélation, on va dire très simplement, ne peuvent pas la garder pour eux-mêmes. Ils la transmettent oralement, mais à un moment donné, ils relisent l'événement et ils décident de l'écrire. Ils mettent par écrit. Mais vous voyez bien, le projet de Dieu de sauver les hommes, pour que les hommes puissent témoigner de génération en génération qu'il va les sauver, vient rejoindre le projet du premier auteur qui a décidé de mettre par écrit. Celui qui a décidé d'écrire, c'est que son projet, c'était d'être lu. Vous voyez ? Et donc, lorsque les auteurs sacrés de l'Ancien Testament ont mis par écrit cette expérience-là de Dieu qui se révélait à eux, c'est un projet historien, c'est-à-dire qu'ils se sont faits historiens pour le monde. Vous voyez, pour les lecteurs, ils sont devenus des historiens. Ils ont témoigné de faits ou d'événements, on en avait parlé l'autre fois sur un échange intéressant sur la différence entre faits et événements. Eh bien, ils ont témoigné d'un événement, ils ont témoigné de faits, et ils ont été, dès lors, des historiens qui ont écrit, comme ça, les historiens spécialistes d'Henri IV, ou de Louis XIV, ou de Napoléon, et qui écrivent. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là où c'est intéressant de voir comment on peut transposer le projet de Dieu théologiquement sur l'idée d'un projet d'historien, en fait. C'est ce qu'a fait Luc. Luc, il n'a pas connu Jésus, donc il s'est enquis de tout ce que les autres avaient écrit pour écrire lui-même une histoire. Alors Théophile, il n'a peut-être pas existé, mais il prend Théophile à témoin. Enfin, en plus, Théophile, l'ami de Dieu. Donc, vous voyez bien, en plus, c'est un jeu de mots sur le prénom de Théophile. Donc, ce qui est intéressant pour nous, alors peut-être que c'est plutôt... Enfin, ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir que ça rejoint l'histoire même de l'histoire des hommes, en fait. Mais pas du point de vue de la révélation, mais du point de vue de l'histoire historique. C'est de ce point de vue-là, mais du point de vue d'un projet, bien entendu. De la part de Dieu, on pourrait dire que ça a valeur de préparation. Comme on pourrait dire que l'Ancien Testament, il prépare le Nouveau Testament. C'est-à-dire l'Ancien Testament va annoncer ce que le Nouveau accomplit. Bon, je vois l'heure, vous voulez une pause peut-être ? On va faire la pause. Donc en fait, Christophe Théobald, ce qu'il semble dire, il semble dire que le projet de Dieu est le projet de l'histoire, le projet historien, eh bien les deux, ce projet, se rejoignent parce que chacun vise le témoignage d'un seul et même projet voulu par Dieu. Vous voyez, le projet de Dieu et le projet historien rejoignent un même projet, c'est-à-dire une inscription dans l'histoire de l'événement de la révélation de Dieu. Bon, Après, moi j'avais trouvé que c'était assez intéressant de penser que la dimension historienne du projet entrait aussi dans le projet de Dieu, ayant choisi des hommes pour écrire. Ce qu'il faut retenir, c'est que cela a valeur de préparation. Mettre par écrit dans l'Ancien Testament, ça a aussi valeur de préparation de cet autre temps de la révélation qui est la révélation en Jésus-Christ. Pourquoi préparation ? Parce que ce projet est mis en œuvre par Dieu lui-même, parce que c'est son choix, c'est son désir, c'est sa volonté, celle de se faire connaître, que c'est Dieu qui est l'initiateur de l'histoire du salut. Vous voyez bien, on parle de salut, mais on parle aussi d'histoire. C'est pour ça qu'on est toujours un petit peu à cheval entre le salut réalisé par Dieu pour les hommes et en même temps, on va parler d'histoire du salut, c'est-à-dire l'histoire d'hommes vivant à une période, ayant vécu à une période, et que leur histoire, elle intéresse notre histoire. Donc la catégorie de l'histoire, elle est presque naturelle dans l'idée du projet de Dieu. Donc Dieu a une volonté, celle de mettre en œuvre et de préparer. Et quand on dit préparation, souvenez-vous, le premier cours, on avait parlé d'économie. Voilà, c'est-à-dire de moyens que Dieu se donne pour se faire connaître. Eh bien, ça va continuer par passer par l'écriture, le choix de certains hommes, choisis et pris au milieu du peuple, qui vont écrire en toute liberté, avec leurs connaissances propres, mais sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, on retrouve bien ces trois articulations, le choix, c'est-à-dire l'élection, des hommes choisis parmi le peuple et des hommes qui doivent témoigner. Et donc qui doivent témoigner de paroles et d'actes, parce que les paroles et les actes s'accomplissent, et on reprend toute l'économie depuis le début, la promesse, l'alliance, la fidélité et l'amour. Parole et acte de Dieu dans la promesse, par l'alliance, en fidélité et avec amour. C'est l'épaisseur du projet, c'est cela, l'incarnation du projet, c'est cela. Et donc pour le peuple d'Israël, ces mots-là sont fondateurs, promesse, alliance, amour, fidélité. Et en même temps, on voit bien qu'ils ont une valeur d'annonce universelle, puisqu'avec Jésus-Christ, ces mots-là, ils sont présents, ils ont aussi une réalité. Mais à cette réalité-là, peut-être qu'on peut en ajouter un autre, deux mots, c'est le mot « liberté ». La religion chrétienne, c'est la religion de la liberté. Et donc la révélation dans l'histoire ne pourrait pas se déployer sans cette dimension de liberté. Dieu est libre de se manifester et l'homme est libre de ne pas accueillir la promesse. Et donc la liberté, c'est pas un pléonasme là, mais elle a une fonction de libération de la parole. Si celui qui écrit, écrit en toute liberté et non pas contraint sous la dictée, alors c'est qu'il exerce sa liberté d'écriture. Et donc la parole des écrivains vont pouvoir mettre en intrigue, c'est-à-dire mettre en récit, selon une intrigue particulière, le récit de l'événement. Et du coup, on aura à chaque fois une teneur d'un récit qui sera différente. Et comme je vous le disais pendant la pause, ben, les différences nous garantissent la vérité du texte. Vous voyez, alors on n'est pas dans l'idée de véracité, parce que si on, je vous disais la véracité, ce serait, je chercherais la preuve. Mais là, je ne cherche pas la preuve. C'est pour ça que savoir si Jean a écrit l'Évangile, l'Apocalypse, si c'est le même, si le Jean bien-aimé, c'est celui qui pose sa tête sur l'épaule, est-ce que c'est lui qui a écrit ? C'est important de le savoir et en même temps, c'est secondaire. Parce que ce qui est important, c'est de dire bah, c'est une parole qui est écrite en vérité.
Vous voulez dire qu'il croyait...
Excusez-moi, je sens que j'ai éternué. Non, ça ne vient pas. La Sainte Tradition, c'est la tradition de transmission de la révélation de Dieu. Alors, si je fais un temps de pause, c'est parce que le Concile Vatican II, précisément, mais ça depuis le Concile de Trente, ça nous fait ouvrir une grande parenthèse, le Concile de Trente avait... pour garantir les termes de la foi contre les protestants, avait dit qu'elle, les pères conciliaires du Concile de Trente, voyaient dans la révélation deux sources, l'écriture et la tradition. Donc là, par rapport à vos questions, qui sont similaires, la tradition, c'est la transmission de la révélation de Dieu, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale. Il s'est trouvé... que cette question n'a pas été débattue et n'a pas été conclue. Donc le Concile de Trente a laissé cette double source de la révélation en suspens. Il s'est passé plusieurs siècles. Vatican II a repris cette articulation sans y répondre parce qu'il n'a pas eu le temps. Et Vatican II a repris cela parce qu'on sait que chaque concile reprend le travail du concile précédent. Soit pour lui rendre hommage, soit pour continuer sur une question qui n'a pas été résolue. Et le Concile Vatican II a reconnu que la révélation, elle se donne selon deux sources, l'écriture et la tradition. Sauf que les pères conciliaires ont dit « la tradition précède l'écriture ». Donc on peut dire, ben oui, ils ont raison, puisqu'avant que ce soit écrit, c'était oral. Mais, en disant cela, les protestants du Concile Vatican II, en 1962-65, cette ouverture aux protestants, à l'œcuménisme que Vatican II voulait, ont dit, ah mais c'est un retour en arrière terrible! C'est un affront que vous faites aux protestants, parce que pour les protestants, seule l'écriture compte. Vous voyez bien, pour Luther, c'est la sola scriptura, c'est uniquement l'écriture, pas la tradition. Ils ne rejettent pas la tradition des apôtres, mais la tradition, c'est pas le cœur. Le cœur, c'est l'écriture. Donc si l'Église catholique dit, ben nous on considère que la matérialité de l'écriture ne suffit pas à la révélation et qu'il faut y ajouter la tradition, parce qu'au départ la tradition c'était la transmission orale et qu'on pouvait recevoir la révélation par l'oralité, alors c'est que la révélation a deux sources, l'écriture et la tradition. Est-ce que vous comprenez un petit peu ? Voilà. Donc par la tradition il faut entendre transmission. Et donc la transmission totale, pure, entière, on met un grand T parce que c'est la tradition apostolique. C'est eux qui sont les héritiers d'une tradition de transmission. Donc on parle de tradition apostolique. Est-ce que ça a répondu à vos questions ? Est-ce que c'était ça la question que vous vous posiez ?
Moi, j'essayais de savoir si la tradition, c'était avant ou après l'écriture. Vous êtes en train de me dire que c'était avant, mais moi, je pense que si les protestants sont contre, c'est plutôt après, parce que c'est ce qui justifie la opposition à l'Église catholique.
Après, Après, il faut faire attention de la représentation que nous avons du terme de tradition. C'est-à-dire, les traditions, c'est comment on va perpétrer des usages cultuels ou culturels de génération en génération, de famille en famille. Ça, c'est une tradition de transmission. Et c'est ça, les traditions avec un petit T. Et les apôtres, ils ont pu mettre en œuvre la tradition avec un grand T parce qu'ils avaient eux-mêmes l'expérience de transmettre des petites traditions. Donc si vous avez en tête tradition, mais comme les traditions, alors on est au-delà de cela. C'est-à-dire qu'on est dans le mouvement de transmission. Et dans ce mouvement de transmission, il y a la tradition apostolique, voyez. C'est-à-dire que moi, quand je dis tradition apostolique, je mets dans le calque, je mets transmission, tradition. Ils transmettent ce qu'ils ont reçu. Et en transmettant ce qu'ils ont reçu, cette tradition héritée des apôtres, c'est le fondement de notre foi. Donc ça va beaucoup plus loin que la simple transmission, vous voyez bien, ou la simple tradition de transmettre. Ça devient la règle de la foi, ça devient la foi. Sans la tradition apostolique, est-ce qu'on pourrait confesser notre foi de la même façon? Je ne sais pas, mais la manière... L'acceptation des apôtres de mourir comme ils sont morts au nom de Jésus-Christ témoigne de leur foi et témoigne aussi pourquoi ils ont voulu écrire, en fait. Donc cette tradition apostolique, l'Église considère qu'elle est antérieure à l'Écriture. Ouais, en fait, c'est ça, quoi. Mais pour les protestants des années 60, c'était un affront. Donc il a fallu que l'Église reprenne son vocabulaire, reprenne cela. Mais la compréhension, elle est toujours rétrospective, c'est toujours après. Vous voyez bien ce mouvement que l'on fait toujours là depuis le début. On essaye d'expliquer le début à partir de la fin. C'est toujours le mouvement qu'on fait en théologie. On est là, et bien pour comprendre ce que l'on dit là maintenant, ben on est obligé de regarder avant, ce qui s'est passé avant. Donc, c'est toujours une compréhension rétrospective, toujours. Donc, la fonction de l'écriture, notre point suivant, la double fonction de l'écriture, eh bien, vous voyez bien, c'est un faire mémoire. Je vous parlais d'identité chrétienne, mais l'identité chrétienne, elle s'est fondée aussi sur ce faire mémoire. On refaisait les gestes et on redisait les paroles du Christ. Donc, c'est un faire mémoire qui va affirmer l'identité de ce groupe qui se dit chrétien dans un monde païen, dans un monde où ils sont persécutés. Ça va les différencier des autres religions, ça va les différencier des autres groupes. Et donc les communautés vont s'organiser à partir des écrits qui circulaient, les lettres de Paul, les écrits de Marc. Et donc c'est cela qu'ils lisaient quand elles se retrouvaient. Elles faisaient les gestes de Jésus, elles partageaient le repas, elles mettaient les biens en commun, et on lisait les lettres de Paul, où on relisait les écrits de Marc ou de Matthieu dans les communautés. Et donc, ce faisant, il y avait une sélection presque naturelle qui s'est faite des écrits qui ont été mis dans des recueils. Et donc, c'est ces recueils que possédaient les communautés chrétiennes. Et donc, elles ont garanti la continuité de la lecture. Vous voyez bien cette habitude de lire les écrits, de lire l'écriture. Elle est déjà dans la tradition de ces communautés. Et quand on sait que certains sont des juifs convertis, issus de la diaspora, ou issus de la synagogue, eux-mêmes, ils avaient l'habitude d'ouvrir la Torah, de dérouler la Torah et de lire Isaïe et de lire les grands prophètes. Donc pour eux, c'est une tradition, c'est une continuité, ça ne change rien. Sauf que ce qui change, c'est qu'ils sont dans cette période du Christ et que leur identité a changé, a été bouleversée. Donc il y a une vénération des Écritures. Et donc le fait que l'Église considère que ces écrits sont canoniques, ça veut dire que ces écrits sont considérés, ça je pense que Rosine vous l'a dit, considérés comme étant authentiques. Parce qu'à l'époque circulaient d'autres écrits que l'on dit être des écrits apocryphes, et que ces écrits apocryphes n'ont pas été gardés par les communautés chrétiennes parce qu'ils n'étaient pas authentifiés comme étant vrais. Donc on les a laissés de côté. C'est pour ça que je vous parlais presque de sélection naturelle. Donc les communautés n'ont gardé que les écrits authentiques. Et on lit chez Matthieu, il se méfie des faux prophètes, chapitre 7, verset 15. Des loups redoutables s'introduiront parmi vous, dit Paul. Dans Actes 20, chapitre 20, verset 29, on lit « Ne pas se laisser égarer par les doctrines étrangères. » Parce que bien sûr, il y avait des mélanges de doctrines dans les écrits apocryphes, des miracles qui étaient en même temps des miracles de thaumaturge, enfin, voilà. Donc, il y a une sélection naturelle. Et donc, dans notre dernier chapitre, eh bien, on n'a peut-être pas le temps, vous en avez peut-être un petit peu... voilà, vous pourrez lire le texte 8 de la Constitution dogmatique sur l'importance de la Sainte Écriture pour l'Église, en tout cas cette première phase qui dit que l'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle le fait aussi pour le corps même du Christ. D'où notre réticence à caler un meuble avec la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Toujours est lue et elle a pour règle suprême de sa foi les Écritures, conjointement avec la Sainte Tradition, puisque inspirée par Dieu et consignée une fois pour toutes par écrit. Entre eux, alors, on peut lire un petit peu plus loin. Dans les livres saints, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Or, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur, et pour les enfants de l'Église, la solidité de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Dès lors, ces mots s'appliquent parfaitement à la Sainte Écriture. Elle est vivante, donc efficace, la parole de Dieu, qui a le pouvoir d'édifier et de donner l'héritage à tous et à tous de les sanctifier. Donc vous voyez bien cette manière très, on pourrait dire, très dilatée que l'Église a de considérer l'Écriture, non pas seulement comme le livre de référence des chrétiens, mais comme la parole de Dieu, comme sa nourriture, dans lequel il peut trouver appui, il peut trouver vigueur, il part de nourriture pour leur âme. Que celui qui s'y reconnaît peut se reconnaître comme étant enfant de l'Église, dans laquelle cet enfant de l'Église trouve dans la Bible sa source pure et permanente. Quand je vous disais, en fait, c'est une parole en vérité, c'est une parole qui ne peut pas tromper, c'est une parole pure. Et donc, vient nourrir la vie spirituelle. C'est important de lire cela parce que cela nous dit on peut écouter l'Écriture lorsqu'on va à la messe ou en église Mais pas seulement, pas uniquement. C'est aussi personnellement. Voilà, j'ai plus de voix. Voilà pour aujourd'hui.